nous avions vu la dernière fois les premiers versets qui introduisent ce que Pierre Grelot appelle le coup de force au temple. Je préfère cette expression à la purification du temple parce que le vocabulaire du pur et de l'impur et de la purification ne se retrouve pas dans ce récit. Par contre, ce qui pose, comme je l'ai intitulé dans le premier point de la présentation de cette péricope, un problème insoluble, c'est le fait que pour le quatrième évangile, ce coup de force ait lieu au moment de la première scène vraiment publique de l'évangile, alors qu'elle intervient, au contraire, pratiquement comme une des dernières scènes de la vie publique chez les synoptiques. C'est une scène qui semble d'ailleurs avoir, dans ses traditions synoptiques, précipité la condamnation à mort de Jésus, compte tenu de ses dispositions en parole et en acte à l'égard du temple de Jérusalem. Qui a raison ? C'est vraiment difficile à dire parce que la vraisemblance historique est en faveur de Jean pour beaucoup de points concernant la chronologie, comme par exemple la chronologie de la Passion. Nous verrons ça en son temps. Jean a aussi la vraisemblance historique pour lui à propos des trois montées de Jésus à Jérusalem lors des trois Pâques de sa vie publique, alors que la seule montée vers Jérusalem à la fin de sa vie chez les synoptiques tient de la schématisation. C'est une construction de ces traditions. Maintenant que lors de cette première montée de Jésus à Jérusalem dans la vie publique de Jésus selon Jean, il y ait aussitôt ce coup de force, voilà ce qui rend perplexe. C'est d'ailleurs aussi l'occasion de souligner que, malgré ce qui était considéré encore il y a quelques années comme un point de repère chronologique tout à fait sûr pour la datation des événements de la vie de Jésus, dans les traditions johanniques et synoptiques confondues, ce qui arrive au verset 19, verset 20 plutôt, la réaction des Juifs, en 46 ans fut construit ce sanctuaire, et toi en 3 jours tu le relèveras, eh bien laisse encore les critiques perplexes aujourd'hui, parce que ce qui sert d'appui pour la datation de cet épisode, habituellement remontait aux antiquités juives de Flavius Joseph. Ou d'après ces données-là, pour faire bref, nous serions de manière assez certaine au moment donc de la Pâque de l'année 27-28. Mais ceci a été remis en cause parce qu'on se rend compte que justement dans les écrits même de Flavius Joseph, pratiquement contemporain de l'époque du Nouveau Testament, ce qu'il dit dans la guerre des Juifs à propos de la construction du temple ne correspond pas à ce qu'il dit dans les antiquités juives. Donc nous voilà un petit peu embarrassés. Toujours est-il que, de nouveau, le point est bien fait sur cette question dans le premier volume de John Paul Meyer, Un certain juif Jésus, selon la traduction française, qui dit, eh bien, finalement, il est difficile de trancher pour 2 aspects, la date exacte de cette première Pâque. Il dit, le créneau, c'est 27-30 de notre ère, et pour, disons, le caractère de coup de force que représente cette scène de la part de Jésus à l'égard du temple, il penche plutôt en faveur d'une reconstruction du quatrième évangéliste. disant, voilà, c'est vraisemblablement les synoptiques qui ont raison en faisant de ce coup de force à la vie, à la fin, à la dernière Pâque de la vie de Jésus, ce qui accélère la condamnation à mort de Jésus. Eh bien, personnellement, je ne suis pas non plus totalement convaincu par l'argumentation de Maier, parce qu'on voit bien, il y a une sorte de flou. Ce qui me semble sûr, c'est que dans la construction du quatrième évangile, certainement, l'auteur fait de cette scène l'ouverture de la vie publique, un. Deux, compte tenu justement de tout ce qui est lié au temple et à ses implications, comme nous allons le voir dans un instant à propos de la fameuse expression, il parlait du sanctuaire de son corps. Et la troisième chose qui me semble importante à souligner, c'est que nous sommes toujours dans ce que je continue à appeler avec certains le prologue narratif de l'évangile, où l'auteur peut prendre certaines libertés du point de vue de, finalement, la chronologie, parce que ce n'est pas ce qui l'intéresse au premier chef. Ce qui l'intéresse, c'est de continuer à développer un prologue narratif qui corresponde, pour le récit des événements, au prologue hymnique qui ouvre son texte, les versets 1 à 18 du chapitre 1. Donc, pour brièvement rappeler où nous en sommes, il y a eu en 1:19-34 les trois témoignages de Jean le Baptiste, très dense. Ensuite, les premiers disciples 1:35-51, la fin du chapitre 1. Donc, tous les titres principaux sont plantés du point de vue de l'identification de Jésus pour que nous puissions comprendre l'événement du commencement des signes à Cana de la Galilée, en 2:1-12. Alors, jusqu'où se prolonge ce prologue narratif? Il y a quelques années, avec certains auteurs d'ailleurs, je pensais que ce prologue narratif se terminait justement avec la noce à Cana de la Galilée, avec ce commencement des signes que Jésus fait à Cana de la Galilée et qui renvoie un peu en une sorte d'inclusion avec le début du prologue hymnique, au commencement il y a la parole. De plus en plus, et en y retravaillant pour ce cours, je pense que ce prologue narratif, compte tenu des deux passages sur Jean, il me semble très important dans le prologue hymnique, se prolonge jusqu'au deuxième témoignage de Jean en 3:22 à 4:3a. Où j'espère encore arriver ce soir. Donc, le prologue narratif intègre ces deux scènes qui me semblent, comme je l'avais dit la dernière fois, former un diptyque, deux panneaux d'un même diptyque. Le commencement des signes à Cana de la Galilée où Jésus est encore dans un environnement relativement restreint. Quelques disciples, ses frères, comme dit le texte, la mère, les époux de Cana, et maintenant donc la montée à Jérusalem qui le conduit immédiatement au temple, qui est aussi une scène, on pourrait dire, programmatique, emblématique. Et même si il y a des éléments qui pointent vers, disons, la chronologie, ce n'est pas, me semble-t-il, ce qui est au premier plan des préoccupations de l'évangéliste. Ce qu'il veut souligner, c'est la portée de ce qu'est Jésus comme parole faite chair, désignée aussi par tous les titres que nous lui avons déjà vus décerner, appliquant ce qu'il est dans la transformation de l'eau en vin qui exprime symboliquement et fondamentalement le rapport entre l'ancienne et la nouvelle alliance, ce qu'il veut nous faire comprendre maintenant et qui est capital à ses yeux, comme d'ailleurs pour chacun d'entre nous, lecteurs et lectrices de l'Évangile, c'est la portée de cette identité de Jésus dans ce qu'il dit et dans ce qu'il fait, du point de vue eh bien, on pourrait dire non seulement du judaïsme, mais du cœur du judaïsme qui est le culte du peuple au temple pour les grandes fêtes de pèlerinage. Donc, il en quelque sorte centre notre attention sur les implications que cette personne de Jésus supporte du point de vue du rapport à la foi d'Israël, pour faire bref, à la foi juive. Et c'est d'ailleurs pourquoi il est question de la Pâque des Juifs, la Tob traduit la Pâque juive, et qu'il est question immédiatement maintenant, dans les versets qui suivent l'introduction, d'un dialogue entre Jésus et les Juifs, la Tob traduit les autorités juives, mais aussi du point de vue de ce que les disciples perçoivent de la portée de l'événement. Et donc, je ne reviens plus sur les versets 13 à 16, j'enchaîne directement avec les versets 17 à 22, qui sont remarquablement cadrés. Vous avez cela sur la petite feuille de schématisation que j'ai donnée et de réduction aux composantes essentielles de 2, 13, 25. Les versets 17 à 22 sont donc balisés par une insistance sur la mémoire des disciples, et qui est d'ailleurs aussi très important du point de vue d'une règle de lecture pour le quatrième évangile. Compte tenu de ce que Jésus a dit et fait dès l'ouverture de cette scène publique au temple de Jérusalem, il est dit au verset 17, « Ils se rappelèrent ses disciples qu'il est écrit. » Le zèle de ta maison me dévorera, et il y a une faute dans ma citation, ce n'est pas le psaume 69, 9, c'est le psaume 69, 10. C'est sans doute une erreur de copiste de ma part, j'ai adjoint le 9, le verset 9 au 69 du chapitre du psaume qui précède, c'est 69, 10. Le zèle de ta maison me dévorera, c'est une transformation d'un passé en un futur, de la traduction de ce texte dans la traduction grecque de la Septante, qui dit « Le zèle de ta maison me dévorera » et qui rejoint finalement le texte hébraïque qui veut dire pratiquement la même chose, « Le zèle de ta maison me dévore » plutôt. Ici, l'auteur fait en quelque sorte une petite transformation en mettant le verbe « au futur » et le verbe signifie le zèle de ta maison, il s'agit bien donc de la maison de mon père, hein, c'est le même terme qui est employé pour désigner le temple, me dévorera, dévorer dans le sens de enlever la vie, hein, plus encore que consumer. C'est une remarque que fait Rudolf Schlackenburg dans son commentaire. Donc, la mémoire scripturaire des disciples fonctionne pour éclairer les paroles et les gestes de Jésus. C'est remarquable. Du double point de vue de la mémoire et du contenu de cette mémoire qui est une citation du psaume 69, verset 10. Ils éclairent le sens de ce que Jésus dit et fait par l'écriture. Il y aura encore d'autres compléments d'informations à ce sujet dans quelques versets plus loin. Ils répondirent donc les Juifs, les autorités juives, oui, en tout cas ceux qui peuvent prendre la parole dans un tel contexte, hein, concernant le temple, et ils lui dirent « Quel signe nous montres-tu que tu fais ces choses ?» Et donc on retrouve la terminologie du signe que l'on fait, le verbe « faire » étant un verbe qui, en quelque sorte, a un rapport avec la création, hein, l'autorité de Jésus sur le créé, parce qu'il est la parole créatrice, précisément. Quel signe nous montres-tu que tu fais ces choses ? Le texte n'est pas présenté comme un autre signe par rapport au commencement des signes de Cana. Hein ? Ça, c'est la lecture que les autorités juives font, vraisemblablement, suggère l'évangéliste, en contraste avec la réaction des disciples. Il répondit Jésus et il leur dit... Alors, on dit souvent « détruisez ». Non, non, c'est plus subtil. C'est le verbe qui avait été utilisé pour le déliement des sandales, des lanières de sandales. Donc, le texte est en rapport un peu aussi avec ce témoignage de Jean qui précède. « Délier ce sanctuaire ». Et alors, voilà, ça c'est une des énigmes du texte aussi, il y en a toujours plusieurs chez Jean, le texte est toujours énigmatique, c'est en quelque sorte son caractère sapientiel et apocalyptique qui veut cela, délier ce sanctuaire, il ne dit pas ce temple, il dit, alors il y a trois parties dans le temple, hein. On peut voir cela très bien attesté, notamment dans... Alors, je retrouve mes données. Où sont-elles ? Eh bien, ne perdons pas notre sang-froid. Il y a trois parties dans le temple. Il y a le hieron, qui est le oulam. Le oulam en grec, U-L-A-M. Oulam, c'est en quelque sorte l'ensemble, l'enceinte du temple. Il y a le hekal, qui est le saint, le vestibule à l'intérieur du temple, qui n'est fréquenté que par les prêtres et les grands prêtres. Et enfin, il y a le saint des saints, le débir. Eh bien, ici, le sanctuaire semble... Ben, ce n'est pas sûr. Beaucoup de critiques disent, non, pour Jean, même si c'est la seule fois où il parle du sanctuaire pour le distinguer du hieron, c'est vraisemblablement la même chose. Je ne pense pas. S'il distingue les deux mots, vraisemblablement veut-il attirer l'attention sur ce qu'il y a de plus précieux, de plus important dans le temple, et c'est le sanctuaire. Délier ce sanctuaire, et en trois jours, je le relèverai. Nouvelle parole énigmatique qui va être éclairée un peu plus loin. Curieux que je ne retrouve pas la référence exacte. Enfin, voilà, ça c'est secondaire. Ce sont les livres historiques qui détaillent en général, les livres des rois, n'est-ce pas, qui détaillent tous ces espaces à l'intérieur du temple. Ils lui dirent donc, les Juifs, les mêmes qui ont pris la parole au verset 18, voilà le verset que j'ai déjà cité. En 46 ans fut construit ce sanctuaire, donc le terme est repris une deuxième fois, et toi, en trois jours, tu le relèveras. Question, comment est-ce possible ? Exemple typique d'incompréhension johannique, comme on dit. Ils entendent à un niveau chronologique ce que Jésus dit à un autre niveau, pourrait-on dire, théologique. Et alors, le verset 21 contient l'explicitation de l'évangéliste. Celui-là disait cela au sujet du sanctuaire, troisième fois que le terme est repris, de son corps. Et alors, vous voyez, par rapport à toutes les questions de chronologie, de datation, de la scène, de la construction du temple, etc., tout ceci est relatif par rapport à l'affirmation majeure qui apparaît ici et qui est de la plume de la rédaction de l'auteur. Il interprète, lui, la scène en disant « il disait cela » au sujet du sanctuaire de son corps. Et toute la question alors est de savoir comment on peut arriver, compte tenu des données de la révélation biblique, à une perception du temple et du sanctuaire à l'intérieur du temple comme étant le corps de Jésus. Ça, c'est un raccourci extraordinaire de toute la révélation depuis la création jusqu'au moment où on parle. Alors, voilà, pour faire très très bref, n'est-ce pas, mais donc, n'oublions jamais, tout est écrit à l'enseigne de la parole au commencement. Et donc, la parole au commencement, c'est la condition de possibilité de la création. Hein ? Pas seulement la création. Jean ne dit pas au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Il dit au commencement, il y a la parole qui rend possible toute création. Et donc, quand Dieu crée par sa parole, là, justement, un texte comme celui-ci nous le rappelle avec insistance, et c'est en rapport aussi avec les mythes de création du Proche-Orient ancien, il crée un lieu où habiter. La création, le cosmos, les créatures, c'est la demeure de Dieu, créateur. Il habite. Il est présent dans sa création et donc dans sa créature. Quand survient alors très vite le refus, la désobéissance à la parole, hein, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, le péché dans la Bible, alors il n'y a d'autre solution de la part de Dieu qui se sent en quelque sorte comme exilé de sa demeure, de sa création, d'essayer, en quelque sorte, de sauver cette création pour pouvoir y habiter à nouveau. Et c'est l'élection d'un peuple, c'est dans ce peuple aussi un culte qui, dans la période nomade, abrite Dieu dans une tente, hein, la tente de la rencontre. Et puis, à l'époque de la sédentarisation, il vient habiter le temple de Jérusalem. Donc, c'est toute cette symbolique de la maison de Dieu qui se trouve évoquée et qui est d'ailleurs bien introduite par la maison de mon père. Et puis, le zèle de ta maison me dévorera. Hein ? Si bien que, en fin de compte, l'œuvre de salut du Dieu créateur culmine alors pour nous dans la foi chrétienne, dans la foi en la demeure de Dieu, en son Fils fait chair. Il parlait du sanctuaire de son corps. Et bien entendu, il faut qu'on s'entende à ce sujet justement. Mais ceci est dit en notre faveur. C'est pour que nous comprenions nous-mêmes, comme croyants, à quel point notre corps de croyant, à partir du moment où il est engendré de Dieu, c'est la définition du croire selon Jean, selon le prologue hymnique, devient à son tour le lieu de la présence du Père par son Fils dans l'Esprit. Donc ceci est dit de façon extrêmement ramassée dans le texte. Je ne peux que ramasser très brièvement, je me suis expliqué là-dessus dans un article de Christus Jadis, mais voilà, il y a une synthèse là qui fait comprendre l'essentiel de ce que l'évangéliste veut communiquer à propos de cette scène au temple. Il veut en arriver à ce qui, pour lui, est le cœur de son message, que nous comprenions à quel point, finalement, tout l'ordre cultuel de la foi d'Israël culmine dans le corps du Verbe fait chair. Parce que c'est la grande différence entre la foi juive et la foi judéo-chrétienne, la foi monothéiste juive et la foi en un Dieu trinitaire chrétienne qui n'est pas incompatible avec la foi juive. Et ça, c'est un fil qu'il poursuit tout le temps. Alors, verset 22, début du verset qui donne une autre clé de lecture de cette scène et de l'ensemble de l'évangile, les disciples ne se souviennent pas seulement de l'écriture quand ils voient Jésus faire ce qu'il fait et qu'ils entendent ce qu'il dit, quand il fut relevé d'entre les morts. Et voilà donc levé la symbolique du verbe relever, hein, qui est utilisé en 3 jours, je le relèverai. En 46 ans fut construit ce sanctuaire et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Quand donc il fut relevé d'entre les morts, ce qui montre bien que tout l'évangile, surtout depuis la première scène publique comme ici, est écrit à la lumière de la résurrection, ce qui va très loin, parce que par exemple, du point de vue de l'investigation historique, cela empêche finalement de mettre entre parenthèses la résurrection pour étudier la véracité des événements historiques qui nous sont racontés. Quand donc il fut relevé d'entre des morts, ils se rappelèrent, ses disciples, exactement la même expression qui était employée au verset 17, que ceci il le disait. Alors là, ce n'est pas simplement ce que Jésus dit et fait qui suscite la mémoire des disciples, c'est l'événement de la résurrection. Et ils crurent. Alors, voilà ce qui est semblable avec la conclusion de l'épisode à Cana de la Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ici, ils crurent à l'Écriture. Et plus seulement donc un verset. Hein, mais l'Écriture, on pourrait dire, dans sa totalité de l'époque. Alors, quand je dis totalité canonique, on me dit, n'est-ce pas, oui, mais enfin, qu'est-ce qu'il en était du canon des Écritures à l'époque de Jésus dans le judaïsme? D'abord, je pense qu'il n'y a pas de canon des Écritures dans le judaïsme. C'est une réalité vraiment chrétienne. Le canon des Écritures suppose précisément, dans la foi chrétienne, le mystère pascal de Jésus. Mais qu'est-ce qu'il en était exactement des écrits normatifs de Jésus à l'époque où l'événement est ici censé se passer? Ah ben, on peut peut-être hésiter sur une certaine frange de textes un peu incertains, mais enfin, ce qui existait certainement, c'est la Torah. La Torah qui est vraiment la référence majeure, les 5 livres du Pentateuque. Les plus grands des prophètes et sans doute la majorité des 12 petits prophètes et la majorité des écrits de sagesse. Donc c'est toute l'écriture dans sa consistance telle qu'elle pouvait être déjà réalisé à ce moment, qui vient alors en quelque sorte aussi déjà donner un contenu à la foi en la résurrection de Jésus d'entre les morts. Et ça correspondra exactement à ce qui se passe en Jean 20 aussi. Hein? Ce qui vient remplir une première fois la béance du tombeau vide, c'est l'écriture. Ils ne savaient pas encore l'écriture d'après laquelle il faut qu'il soit relevé d'entre les morts. Le corps des Écritures est le premier contenu qui soit donné dans la foi au corps du Christ ressuscité. Donc c'est considérable comme enseignement, de nouveau, de manière extrêmement ramassée. Ils crurent à l'Écriture et à la parole qu'avait dite Jésus. Donc, voilà. Ce qui est prodigieux dans l'Écriture, c'est l'économie des moyens. N'est-ce pas? On vous dit, Jean est maître d'orfèvre en la matière, n'est-ce pas? Il vous évoque un monde à travers quelques mots, au fond, très, très simples. Hein. Quand donc il fut relevé d'entre des morts, ils se rappelèrent ses disciples que ceci il le disait. Il se rappelle la parole de Jésus, il le disait, mais alors ils crurent à l'Écriture, et à la fois la résurrection et l'Écriture les font croire à la parole qu'avait dit Jésus. C'est là où nous en sommes, pratiquement au cœur du prologue narratif, si vraiment le prologue est en quelque sorte le prologue narratif délimité par les 2 témoignages de Jean, au cœur de ce prologue narratif, la scène au temple vous dit en quelque sorte toute la théologie et toute l'anthropologie johannique, à la lumière de la résurrection. Alors malgré tout le respect que j'ai pour John Paul Meyer, je crois personnellement, en tout cas pour Jean, et ça je crois qu'il serait d'accord pour le reconnaître, On ne peut pas faire d'enquête strictement historique en mettant la résurrection entre parenthèses quand on étudie l'évangile de Jean. C'est pas possible. Et donc, ce qui vaut pour la scène, pour la scène ici vaut pour les chapitres qui précèdent, le prologue hymnique y compris. Ça rejaillit déjà sur la lecture que nous avons faite de ce qui précède. Alors, conclusion, personnellement, je crois que ce sont ces versets-là qui concluent la scène. Parfois, on les rattache à la scène qui suit. Je préfère les rattacher, comme les derniers versets de 2, 1, 12, à la scène qui précède, à Cana. Comme il était dans Jérusalem, dans la Pâque, dans la fête, toc, 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 hein, c'est pas du bon français, hein, mais c'est pour, en quelque sorte, il y a là une sorte de paradigme, hein, qui met à équivalence Jérusalem, la Pâque, la fête. Beaucoup, voilà, ça s'ouvre. Il n'y a pas seulement les disciples et quelques personnages de l'entourage immédiat de Jésus qui se mettent à croire. Beaucoup crurent en son nom, contemplant ces signes qu'il faisait. Et donc voilà, ce qui est un peu étonnant aussi, c'est que malgré le fait que la scène ne soit pas vraiment décrite par l'évangéliste comme un signe, on parle déjà des signes au pluriel, comme si cette scène était aussi un signe. Peut-être y a-t-il là anticipation des autres signes qui suivent. Alors, autre petite précision qui n'est pas négligeable. Beaucoup crurent en son nom, mais lui ne croyait pas en eux, littéralement. Hein. Il ne se fiait pas à eux, à cause du fait que lui, il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin que quelqu'un témoigne au sujet de l'homme, car lui, il connaissait ce qui était dans l'homme, et ceci est affecté, en quelque sorte, d'une connotation négative. Donc, voilà, ça c'est aussi déjà une sorte d'avertissement. Hein. Il y a croire et croire. Hein. Beaucoup crurent en son nom, contemplant ces signes qu'il faisait. Ah oui, mais justement, le second signe, le seul qui soit aussi numéroté, si on peut dire, n'est-ce pas, à Cana de la Galilée en 4:46-54, ce sera pour dire, il ne faut pas des signes pour croire, il faut croire pour avoir des signes. Et donc, ici, on voit bien, n'est-ce pas, c'est aussi une des subtilités du quatrième évangile, il y a croire et croire. Croire en son nom sur les signes qu'il faisait, attention, ça ne suffit pas. Hein. C'est une première étape, mais toute l'histoire de la suite montrera, n'est-ce pas, que cette première qualité de croire, peut-être plus redoutable que l'incrédulité comme telle. Hein? Parce que, voilà, c'est croire sur ce que Jésus fait d'étonnant, de merveilleux, d'extraordinaire. C'est pas ça qu'il veut. Il veut un croire qui fasse des croyants, ceux qui sont engendrés de Dieu, comme lui-même, en tant que fils unique engendré, est engendré du Père, c'est ça. Et donc, on voit ici qu'il y a déjà une première mise en garde. Hein. Jésus garde un recul, une distance suffisante, et voilà, il n'a pas l'air de se faire une opinion totalement positive, en tout cas de ce premier moment de croire, de foi. Eh bien, je ne suis pas mécontent d'avoir ainsi bouclé un peu, enfin, encore tellement de choses à dire, n'est-ce pas, mais je vous ai mis sur la feuille que je vous ai donnée l'autre jour aussi des textes comme l'Apocalypse syriaque de Baruch ou la 14e bénédiction du Shmoné Esré, des 18 bénédictions, de la prière de la Hamida, reprise encore aujourd'hui dans le culte synagogal, et qui éclaire, disons, ce qui est quand même un événement, comment dire, n'est-ce pas, extraordinaire pour la foi juive, c'est l'évocation de la destruction du Temple en 70. Vraisemblablement a-t-elle déjà eu lieu. Hein. C'est pas sûr, parce que l'énigme de cet événement dans le Nouveau Testament, c'est que c'est un événement qui a en quelque sorte ébranlé l'assise de la foi juive, et on pourrait presque dire aussi en y entraînant les chrétiens, enfin, parce que le temple, pour eux, c'était comme juifs croyants, n'est-ce pas, quand même aussi le lieu symbolique de la présence de Dieu au milieu de son peuple. Eh bien voilà, tout, en quelque sorte, tout le quatrième évangile tourne autour de ce fait qu'à un certain moment, ce temple, qui est le symbole de la foi juive, étant détruit, semble faire s'écrouler certains fondements de la foi juive. Or, des textes que l'on peut trouver, n'est-ce pas, dans les apocryphes, etc., et même, alors, les textes de la 14e bénédiction du Shmoné Esré, qui continue à prier pour la reconstruction du temple, puisqu'il a été détruit, hein, et que c'est si important, donc, dans le judaïsme, on continue à prier pour la reconstruction du temple de Jérusalem, ce qui est vraiment rendu tout à fait problématique avec les deux mosquées qui sont sur l'esplanade du temple à Jérusalem à l'heure actuelle. Il n'y en a pas seulement qu'une, il y en a deux. Hein, donc, voilà, ce serait quand même très, très, très difficile. Mais enfin, voilà, pour vous dire à quoi l'évangéliste veut nous confronter dans cette scène de Jésus à Jérusalem au temple. Et alors, bien entendu, aussitôt est suggérée la réponse chrétienne à la destruction du temple, hein, qu'il ne faut pas mettre au compte d'une prophétie de Jésus. Il n'a pas dit « je détruirai le temple ». On lui fera dire ça, mais il ne l'a pas dit. Hein, ce sera un faux témoignage. La destruction du temple en 70 par Titus et les armées romaines, c'est le fruit de la violence effrénée du païen contre le juif, n'est-ce pas? Donc, voilà, ça ne peut pas être si facilement que cela, mis au compte d'une prophétie du Christ. Or, ça a été dans l'apologétique chrétienne, ça a fonctionné comme ça, malheureusement. Donc, non, pas du tout. Le quatrième évangile nous confronte très vite, comme premier événement de la vie publique de Jésus, à ce qui aurait pu, en quelque sorte, être l'élément catastrophique par excellence pour la foi juive et la foi judéo-chrétienne. Le judaïsme va se relever de cette crise en disant, ben non, comme d'ailleurs dans l'évangile de Matthieu, n'est-ce pas, qui cite deux fois, ce n'est pas, alors évidemment ça m'échappe, ce ne sont pas les sacrifices et les holocaustes que je veux dire, mais la miséricorde, hein. C'est exactement le principe qui fonctionnera dans le judaïsme avec Yohanan ben Zakkai, un des grands rabbins pharisiens de l'époque, n'est-ce pas, qui dira, ben non, ben, le temple, oui, il est détruit, mais le plus important, c'est la miséricorde, c'est la foi, d'une certaine manière. Mais autrement comprise, que la foi chrétienne, qui est la foi en la résurrection du Christ, la destruction du temple n'est pas une catastrophe, puisque le sanctuaire du temple, c'est le corps ressuscité de Jésus. Donc, les deux restructurations de la foi juive et de la foi chrétienne sont déjà présentes dans ce texte pour, en quelque sorte, orienter notre lecture de l'ensemble de l'Évangile. Donc, nous continuons alors dans la suite, mais là, nous n'allons pas en faire une lecture détaillée. Je vous ai reproduit le chapitre 3. Après, donc, l'événement, le coup de force au temple, nous avons la première rencontre vraiment typique, exemplaire, après quand même la rencontre de Jean avec Jésus, mais maintenant c'est une rencontre de Jésus avec Nicodème. Enfin, c'est quand même Nicodème qui demande aussi à rencontrer Jésus. Mais donc, je crois que, voilà, si on voit dans la rencontre entre Jésus et Nicodème, dans le chapitre 3, 1 à 21, un événement qui suit l'événement du temple dans le prologue narratif, alors nous avons aussi un certain nombre d'explications qui nous sont fournies dans le prologue narratif et qui éclairent le prologue hymnique. Et vous allez très vite comprendre de quoi il s'agit, parce que il s'agit, dans cette rencontre de Jésus avec Nicodème, de faire comprendre comment on peut être engendré de Dieu sans être engendré ni des sangs maternels, ni de volonté de chair masculine et féminine, ni de volonté d'homme masculin, mais de Dieu. Le texte de la rencontre entre Jésus et Nicodème nous parle d'engendrement d'eau et d'esprit. Donc c'est une catéchèse baptismale, mais qui est à bien comprendre parce qu'elle est assez nuancée et aussi subtile. Donc je fais une lecture un petit peu transversale maintenant, hein. On varie les plaisirs après avoir fait un peu de surplace sur certains versets. « Il y avait un homme des pharisiens, Nicodème, son nom à lui, un chef des juifs. » Là, on n'a pas besoin de dire que c'est une autorité juive, parce que le texte le dit, un chef des juifs. « Achon ton judaïon. » Alors, le texte ne le dit pas. Mais enfin, il y a des textes rabbiniques, n'est-ce pas, qui expliquent un peu... Nicodème, Nakdémon, on voit ce nom, c'est un rabbin connu dans les traditions d'Israël. Mais que veut dire Nicodème ? Hein ? Nicodémos. Hein ? Vous avez dans ce terme, d'une part, démos, évidemment, c'est le peuple qui donne la démocratie, par exemple, hein, ou la démographie en français. Hein, donc c'est le terme qui veut dire l'assemblée populaire, le peuple. Mais Nicodémos, c'est le peuple vainqueur. Hein. Nikain, c'est le verbe qui signifie vaincre. Donc ce monsieur s'appelle le peuple est vainqueur. Donc il a certainement aussi, par le fait même, un rôle, une consistance collective, comme d'ailleurs tous les personnages singuliers du quatrième évangile et souvent dans la Bible, n'est-ce pas ? Une personne est nécessairement sociale. Jamais de monade simplement enfermée sur elle-même. Donc Nicodème, c'est quelqu'un parmi les autorités juives, donc qui a un rôle positif. Il interviendra trois fois dans l'évangile, maintenant, dès le début de la vie publique, et puis en conclusion à la mort de Jésus, ce sera avec Joseph d'Arimathie, celui qui va demander à Pilate de pouvoir disposer du corps de Jésus pour l'ensevelir, et puis c'est celui qui dira, dans la réunion du Sanhédrin après le retour à la vie de Lazare, qu'on ne condamne pas quelqu'un sans l'avoir entendu, dans un procès qu'on peut lui intenter. Donc c'est au fond, c'est injuste. C'est un homme qui est à la recherche de la vérité et de la lumière. Et donc, c'est ce qui l'amène à Jésus. On voit bien, n'est-ce pas ? Et je crois qu'il faut vraiment favoriser positivement cette figure. Celui-ci vint auprès de lui de nuit. Bon, ben oui, il prend ses précautions. Oui, certainement. Il ne vient pas au vu et au su de tout le monde. Et il lui dit « Rabbi ». Rabbi, hein, c'est exactement aussi le terme qui avait été employé par les premiers disciples qui suivaient d'abord Jean et puis qui se sont mis à suivre Jésus. Rabbi, où demeures-tu ? Rabbi, nous savons. Nous savons, et donc il utilise un « nous » qui inclut sa communauté, et sa communauté de foi, comme chef des Juifs, comme notable parmi les Juifs. « Que de Dieu tu es venu en maître ». Venir de Dieu, je ne vous ai pas mis ça, mais enfin, il y a beaucoup... Venir de Dieu, c'est pas rien, hein, c'est être envoyé par Dieu. Donc il reconnaît en Jésus un envoyé de Dieu, quelqu'un qui a une mission de la part de Dieu lui-même. Et en maître, hein, c'est un maître en Israël qui s'adresse à un autre maître. Hein. Personne ne peut faire ces signes, de nouveau, n'est-ce pas ? Donc ici, le nouveau pluriel, ça déconcerte, parce qu'il n'y en a encore eu qu'un. Mais enfin voilà, il semble bien que cet événement de Jérusalem soit de temps en temps amalgamé à un signe. Personne ne peut faire ces signes que toi tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Ah, c'est encore plus fort. Dieu est avec lui. Ça, ça renvoie à toute la tradition, par exemple, de l'Emmanuel. Immanuel, les oracles de l'Emmanuel dans Isaïe, n'est-ce pas ? C'est celui qui est avec Dieu. Immanuel, il est avec nous. Elle, Dieu. Hein ? Le Seigneur est avec toi, dira l'ange à Marie. C'est de cet ordre, hein ? Donc... Et cependant, Jésus ne le suit absolument pas dans ce sens. Ça, c'est tout à fait typique, n'est-ce pas ? Il casse en quelque sorte ce qui pourrait amorcer un processus quelque part idolatrique. Le maître se voit mettre un peu sur le pinacle, un extrême exceptionnel. Non, on vient de dire, il ne se fiait pas à ça. Il ne se fie pas à ce genre de processus de croire. Il est très, très réticent à l'égard de ça. Amen, amen, c'est la première fois que la fameuse expression en double amen retentit, donc avec sa solennité particulière, si quelqu'un ne fut pas engendré d'en haut. Ah, voilà. On revient au centre du prologue hymnique et au centre de la foi, du croire, selon Jean. C'est être engendré d'en haut. Si quelqu'un ne fut pas engendré d'en haut, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et donc, c'est la première. Et il n'y en aura que deux, ensuite au verset 5, où le quatrième évangile parle de royaume de Dieu. Alors de deux choses l'une, ou bien ce n'est pas important pour le quatrième évangile, le royaume de Dieu, et c'est ce qu'on dit souvent. L'équivalent johannique du royaume de Dieu, c'est ce qui va arriver d'ailleurs au verset 15, c'est la vie éternelle. Ah oui, mais ça, c'est en quelque sorte diminuer l'importance de ces deux mentions du royaume de Dieu. Une étude récente montre très bien, n'est-ce pas, qu'au contraire, Jésus est vraiment présenté comme le roi par excellence dans le quatrième évangile. Et donc, être engendré d'en haut, ça ne veut pas simplement dire être engendré de Dieu. Alors justement, en haut, première énigme, il y a trois sens de cet adverbe. Hein. Et c'est ce qui va justement faire la dynamique du dialogue qui va suivre. Nicodème va entendre le anoten hein, dans le sens d'une seconde fois, de nouveau. Ça, c'est un premier sens. Il y en a un autre, c'est depuis le commencement. Depuis le commencement. Ah, ça, c'est très johannique. Et enfin, d'en haut. D'en haut, c'est-à-dire de Dieu, finalement. Hein. Donc, si quelqu'un ne fut pas engendré d'en haut, il ne peut pas voir le royaume de Dieu, avec le verbe voir. De la vision de foi. Et donc, être engendré de Dieu, d'en haut, laissons l'ambiguïté, hein, la triple valence de cet adverbe en suspens pour le moment, être engendré d'en haut, ce n'est pas simplement croire, c'est se mettre dans les conditions, un, de voir le royaume de Dieu, et au verset 5, d'entrer dans le royaume de Dieu. Et ça, certainement que même si Jean y insiste moins que les synoptiques, il parle beaucoup plus, n'est-ce pas, du royaume de Dieu, du royaume des cieux, etc., c'est très très important, puisque justement, la parole faite chair a autorité royale. Parce qu'il est le sage par excellence, et qu'il ne désire qu'une seule chose, c'est que tout son peuple soit un peuple de sages, que ses croyants soient autant de sages. Et donc, Jésus n'enchaîne pas dans le sens de Nicodème, et Nicodème bloque. Hein. Comment un homme peut-il être engendré, étant vieux ? Ce qui est tout à fait vrai. Donc, la psychanalyse a beau nous rappeler toute l'importance du père, etc., n'est-ce pas, et du rapport symbolique au père, mais Nicodème a parfaitement raison de s'étonner. Comment un homme peut-il être engendré étant vieux ? Il ne peut tout de même pas, dans le ventre de sa mère, entrer une deuxième fois et être engendré. Voilà exactement le sens qu'il a donné à l'adverbe, une deuxième fois. Et il a parfaitement raison de dire ça. Et évidemment, ça fait partie aussi de la technique du dialogue de Jean, n'est-ce pas ? Amen, amen, décidément, ça s'accumule. Hein. Après une première expression, la deuxième aussi solennelle, je te dis, si quelqu'un ne fut pas engendré, Alors, première autre détermination du d'en haut, d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, on s'est évidemment étonné parce que le baptême de Jésus est un baptême en Esprit Saint, a dit Jean dans son premier témoignage. Et le baptême de Jean, c'est un baptême d'eau. Hein? Et alors ici, alors beaucoup se sont dit, n'est-ce pas, oui, mais ça c'est une ajout de la communauté post-pascale, hein, souvent on procède comme ça, n'est-ce pas, et c'est une réminiscence de la pratique baptismale de la première communauté chrétienne, pas sûr du tout, parce que, justement, le premier témoignage de Jean, et tout ce qui va encore être dit de lui, montre bien que ce témoin Jean est indispensable pour faire comprendre qui est exactement Jésus. Hein. Nul ne peut croire s'il ne passe pas par le témoignage de Jean. Ça fait partie du prologue hymnique déjà. Afin que tous crussent une croix par lui, à travers lui. Un verbe, expression énigmatique. Comment est-ce que la foi de tous doivent nécessairement passer par le témoignage de Jean? Ah ben ça fait partie en quelque sorte du message de Johannix. Donc, être engendré d'eau et d'esprit. D'accord, l'esprit est le principal, mais eau et esprit, personnellement je pense que si nous continuons, nous, dans notre pratique baptismale à baptiser en eau et en esprit, c'est en mémoire de Jean le Baptiste. C'est pas d'abord pour mettre en lien avec la création, comme on le dit souvent, la théologie sacramentelle, etc. Alors, salva reverentia de tous mes collègues théologiens, hein, mais bon, je crois que la perspective johannique est parfaitement, si quelqu'un ne fut pas engendré d'eau et d'esprit, et il n'y a pas moyen d'être engendré d'esprit sans quelque part avoir une participation au baptême de Jean, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui se trouve engendré de la chair, chair il est. Et ce qui se trouve engendré de l'esprit, esprit il est. Et là, la précaution à prendre, c'est de ne pas penser que ceci nous fait verser dans un dualisme qui oppose la chair et l'esprit. C'est pourquoi je dis, n'est-ce pas, pour bien comprendre l'énoncé, ce qui se trouve engendré de la chair, chair il est. Ce qui se trouve engendré de l'esprit, esprit il est, y compris la chair, puisque la chair est le lieu de l'incarnation du Verbe. Donc ce n'est pas du tout une dévaluation ou une dépréciation de la chair. Ne t'étonne pas que je te dise « il vous faut ». Donc une nécessité spirituelle, être engendré d'en haut. Alors, l'esprit, ben voilà, c'est la deuxième terme qui a trois sens. Hein? Ruach en hébreu, pneuma en grec, a trois sens. Le vent, le souffle et l'esprit avec un... Ah, d'ailleurs, on pourrait dire quatre sens. L'esprit avec un grand E, l'esprit de Dieu, et l'esprit avec un petit E, l'esprit humain. Et c'est intraduisible, ça. Moi, je traduis l'esprit où il veut, il souffle, mais vous connaissez beaucoup d'autres traductions qui disent le vent souffle où il veut. Hein? Et sa voix, tu l'entends, mais tu ne sais pas d'où il vient et où il part. Bon, hein? La foi est sur fond de non-savoir. Hein? Ainsi est tout qui se trouve engendré de l'esprit. Comment peuvent-elles ces choses devenir? Il a bien raison. Nous nous posons tous la question. Toi, tu es le maître d'Israël et tu ne connais pas ces choses. Tu devrais pourtant, et je vais t'aider, on va s'aider un peu là. Amen, amen, je te dis. Et alors voilà, autre facteur un peu étonnant, je te dis ce que nous savons. C'est par là que Nicodème avait commencé. Rabbi, nous savons que de Dieu, tu es venu en maître. Et donc, il parle pas seulement en son nom, mais au nom des croyants, d'Israël, des Juifs. Ah ben, Jésus fait exactement la même chose. Ce fameux passage impromptu du « je au nous, et ça se retrouvera par la suite dans l'épisode de la Samaritaine, justement, il passe au nous ecclésial. Le je de Jésus est un nous. Je te dis, première personne du singulier, ce que nous savons, première personne du pluriel. Il s'adjoint les croyants. Nous l'adressons, ce que nous avons vu, nous en témoignons, et notre témoignage, vous ne le recevez pas. Alors là, on retrouve le dialogue entre les Juifs à la manière de Nicodème et les Juifs à la manière de Jésus et des croyants qui croient en lui. Et alors voilà, n'est-ce pas, ce qui a été pris comme leitmotiv, comme devise de la revue Jésuite des études, hein. Si les choses terrestres je vous les dis et vous ne croyez pas, comment si je vous dis les choses célestes, croirez-vous ? Donc, application au spirituel, on pourrait dire, de ce qui est d'abord charnel. Le plus grand poète en la matière, dans la tradition littéraire française, c'est Peggy, n'est-ce pas ? Voilà. Le surnaturel est lui-même charnel, hein, dans Ève de Peggy. Donc, personne... Alors, voilà, tout doucement, le texte prend son essor. Personne n'est monté vers le ciel, sinon celui qui du ciel est descendu, le Fils de l'homme. Donc, retour à l'humain. Hein, l'humain lourd du divin, parce que ça, c'est biblique. Il n'y a pas de créature qui soit séparée du Créateur, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de personne qui ne soit pas le lieu de la présence de Dieu. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, épisode des Nombres, traversée du désert, après le Sinaï, avant l'entrée en terre promise, ainsi il faut, deuxième fois que le « il faut » d'Aï arrive après le verset 7, que soit élevé le Fils de l'homme, afin que tout qui croit en lui ait une vie éternelle. Et donc, évidemment, ici, vous avez en résumé, en condensé, et à l'enseigne de Moïse, hein, de nouveau, à l'enseigne de la figure du grand prophète législateur de l'Ancien Testament et d'Israël, qui est en quelque sorte la référence juive par excellence, donc il se situe vraiment sur le terrain de son interlocuteur, n'est-ce pas ? Ainsi, il faut que soit élevé le Fils de l'homme, et de nouveau, évocation du mystère pascal. Parce que être élevé, c'est le verbe, être élevé, exalté, beaucoup, c'est le verbe qui ouvre le quatrième champ du serviteur souffrant en Isaïe 52.13, 53.12. Et donc, on l'a ici, voilà, c'est là où le texte veut arriver dans les versets précédents. C'est la coïncidence johannique entre la vie éternelle et le royaume de Dieu. Et cette vie éternelle, elle n'est pas du tout dissociable du royaume de Dieu. Elle est le royaume de Dieu en acte dans les croyants. Toute dimension, entre guillemets, politique au sens noble du terme, étant incluse. Eh bien, je vais quand même, juste avant la pause, simplement terminer, n'est-ce pas, cette péricope avec Nicodème, qui se conclut par une sorte de développement, on pourrait dire, c'est Schlackenbourg qui disait ça, le kérigme, hein, l'annonce du salut en Jésus-Christ est en quelque sorte résumée en quelques versets maintenant. Ben, on est si bien parti, alors autant continuer, n'est-ce pas ? Tellement il aima Dieu le monde. Première fois que le verbe « aimer », « agapao » intervienne, il a fallu attendre 3 chapitres. Hein ? On dit toujours l'évangile de Jean, c'est l'évangile de l'aimer, de l'agapé, de l'amour. Ah ben non, c'est d'abord l'évangile du croire. Mais il n'y a pas de croire sans aimer, il n'y a pas d'aimer sans croire. Bon. Si tellement il aima Dieu le monde que le Fils unique engendré, alors voilà le lien avec le prologue, le monogène, le Fils unique, il le donna, Donc Dieu a donné au monde le Fils unique afin que tout qui croit en lui ne se perde pas. Le contraire de la vie éternelle, c'est la perdition. Et donc la vie éternelle, c'est le salut. Mais le vocabulaire du salut est très peu utilisé par Jean. Car il n'envoya pas Dieu dans son Fils dans le monde afin qu'il juge le monde, mais afin que soit sauvé le monde à travers lui. Ah, il arrive quand même ici le verbe être sauvé, même s'il est rare, pour bien faire comprendre justement l'enjeu du rapport entre vie éternelle et perdition, entre salut et perdition. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, celui qui ne croit pas, déjà, il a été jugé, parce qu'il n'a pas cru dans le nom du Fils unique engendré de Dieu. Et donc ceci est dit sans aucune détermination. Hein. Chacun doit se situer par rapport à ce genre d'énoncé. On pourrait dire, ben, c'est, voilà, kérigmatique, c'est bien le terme. C'est l'annonce du salut en Jésus-Christ, et donc chacun doit maintenant se situer, d'Israël, des nations, du monde entier, par rapport à cette affirmation de foi centrale. Alors, voilà, le Père, Dieu, n'a pas envoyé son Fils dans le monde afin qu'il juge le monde. Mais il y a quand même un jugement, vous voyez. Ça, c'est, voilà. Dès que vous employez la catégorie de perdition et de salut, hein, de mort éternelle ou de vie éternelle, vous vous trouvez devant le jugement final, hein, le jugement dernier. Donc vous ne pouvez pas en faire l'économie. Mais alors, personnellement, je rappelle toujours, pour tout le corpus johannique, n'est-ce pas, et finalement pour toute la Bible et pour tout le Nouveau Testament y compris, voilà, l'héritage prophétique, c'est de distinguer entre deux dimensions du jugement. Le jugement est un jugement de condamnation par rapport au mal, par rapport au péché, par rapport à ce qui détruit l'homme, la personne. Mais c'est en faveur d'un jugement de salut pour tous les pécheurs que nous sommes. Et alors, comment est-il exprimé ce jugement ici, hein, justement, jugement de condamnation du mal en vue d'un jugement de salut du pécheur qui commet le péché. La lumière est venue dans le monde. Ils aimèrent les hommes plus la lumière que la ténèbre, car elles étaient mauvaises, leurs œuvres. Donc, il n'y a que les œuvres mauvaises qui soient condamnées, hein, en vue de sauver tous ceux qui peuvent les commettre. Car tout qui des choses honteuses en pratique est la lumière et ne vient pas auprès de la lumière, afin que ne soit pas convaincu d'être honteuse ses œuvres. L'Apocalypse reviendra, par exemple. Hein. Je hais les œuvres des Nicolaïtes, par exemple, hein, des hérétiques, des gnostiques, mais pour mieux aimer le monde, comme vient de le dire le texte, afin que soient manifestées ses œuvres, qu'en Dieu elles sont en train d'être œuvrées. Nous nous donnons une petite pause. Et puis alors nous concluons avec le dernier témoignage de Jean, pour aller aussi rapidement que possible dans la lecture de ce texte très dense de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Voilà, merci beaucoup de vous être regroupés sans tarder. Nous continuons avec le texte qui nous sert de transition entre, disons, le prologue narratif qui s'achève ici et le texte, alors le récit proprement dit, qui s'ouvre. Et de plus en plus, je comprends maintenant à la longue pourquoi j'ai tellement de peine à ne pas m'arrêter dans une lecture un peu pointilleuse de l'ensemble de 1.19 à 4.3a jusqu'à la rencontre entre Jésus et la Samaritaine, précisément parce que le quatrième évangélisme est tout en place dans ce prologue narratif pour mieux nous faire comprendre la suite. Et ce qu'il veut encore nous dire maintenant n'est pas banal, parce que donc nous avons affaire au dernier témoignage de Jean. Il n'en sera plus question après. On pourrait fermer la porte maintenant que tout le monde est entré. Voilà, un grand merci. Et donc, comme il s'agit du dernier témoignage de Jean, on peut s'attendre à ce que revienne évidemment la question du témoignage, hein, et du rôle de Jean, presque indissociable de la nouveauté du Christ. Il n'est pas possible de s'exprimer sur la nouveauté du baptême en esprit sans se situer par rapport à ce qui est déjà nouveau du baptême de Jean par rapport au baptême des prosélytes au temple de Jérusalem ou au rite de purification de Qumran. Donc, les deux personnages, en quelque sorte, condensent quelque part une nouveauté, hein, mais deux nouveautés différentes qui s'éclairent mutuellement. Alors, disons rapidement, là, hein, les versets 3, 22 à 4, 3a, ça n'a l'air de rien, mais je crois que c'est très, très, à la fois énigmatique et important. Après ces choses, il vint Jésus et ses disciples. Vous voyez de nouveau un bon exemple. Le verbe est au singulier alors que les sujets sont au pluriel, hein, mais ils ne font pratiquement qu'un. Vers la terre judéenne. Donc on reste dans le territoire de Juda, on reste en Judée, mais on n'est plus à Jérusalem. Donc, la rencontre entre Jésus et Nicodème est très très peu située, mais ça doit être quelque part à Jérusalem, dans les environs du temple. Hein. Eh bien, ici, on quitte en quelque sorte Jérusalem pour retourner en Judée, c'est pas encore très précis, et là, il séjournait avec eux. Et il baptisait. Ah ! On ne vous dit ça nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament que Jésus baptisait. Donc, c'est une sorte de coup de gong, ça. Il baptisait. Il était aussi Jean baptisant, ça on savait. À Aïnon, près de Salim, parce que des eaux nombreuses il y avait là, et il se présentait. Ils étaient baptisés à Aïnon près de Salim, donc c'est une autre identification, mais très voisine de Béthanie au-delà du Jourdain, qui est maintenant très très bien identifié du point de vue archéologique. C'est une des découvertes qui remonte à 95-97, là, hein, à Rome, j'ai rencontré un des franciscains qui a fait les fouilles, là, de l'école biblique des franciscains à Jérusalem. Donc, ils se présentaient et ils étaient baptisés par Jean, hein, parce que c'est le baptême de Jean qui est de nouveau mis au premier plan, car pas encore il n'avait été jeté dans la prison, Jean. Donc on sait, on connaît les événements de la mort de Jean, n'est-ce pas ? Mais le quatrième évangéliste n'en parle pratiquement pas. Devint donc une recherche. Le terme technique utilisé, zétésis, hein, c'est de l'ordre de la racine d'arache en hébreu, n'est-ce pas, qui donne midrash. Hein, donc une discussion entre les disciples de Jean avec un juif au sujet de purification. Ah, là on revient. Là, on retrouve le terme de purification des Juifs, dont il avait été question à Cana de la Galilée avec les 6 jarres de pierre. C'est une des attaches de ce deuxième et dernier témoignage de Jean avec l'événement de Cana. Hein, donc, et ils vinrent auprès de Jean et ils lui dirent, Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain. Donc les disciples de Jean s'adressent à Jean en termes de rabbi, hein, à qui toi tu as témoigné, vois. Alors on aurait pu se dire, tiens, il baptisait au verset 22, ça a un peu échappé à l'évangéliste. Mais non, les disciples de Jean disent à Jean, celui-ci baptise. Donc deux fois, et maintenant, à l'indicatif présent. Il baptisait au verset 22, il baptise au verset 26, et ça devient dangereux parce qu'il y en a plus qui viennent après Jésus qu'après toi. Et tous viennent auprès de lui, donc il suscite un véritable mouvement de foule. Hein ? Il répondit, Jean, et il dit, « Il ne peut un homme recevoir pas même une chose si elle ne lui a pas été donnée du ciel. Vous-même, vous me témoignez que je dis que je ne suis pas moi le Christ, mais qu'envoyé j'ai été devant lui. » Ah, voilà, là, le lien est clair avec le premier témoignage, ils sont inséparables. C'est pour ça que, personnellement, de plus en plus, je pense que ce prologue narratif, il a vraiment une fameuse épaisseur, n'est-ce pas ? Il englobe les deux témoignages de Jean, de 1.19 à 4.3a, en honorant l'importance des deux passages de Jean dans le prologue hymnique. Vous-même, vous me témoignez que j'ai dit que je ne suis pas moi le Christ, mais qu'envoyé j'ai été devant lui. Alors voilà. Alors si, ça éclaire à la fois Cana et ça éclaire le geste de ne pas se sentir digne de délier la courroie de la sandale, n'est-ce pas ? Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. L'ami de l'époux, qui se tient là et qui se met à l'entendre de joie, il se réjouit à cause de la voix de l'époux. Ce passage insensible dans l'évangile de Jean, au voir et à l'entendre. Hein, et ça revient aussi dans l'Apocalypse, ça revient dans toute la Bible. Entendre la parole est presque plus important que voir, parce que voir est toujours un peu menacé d'idolâtrie possible. Celui-là, il faut qu'il augmente, et quand je traduis « il se met à augmenter », je veux souligner le présent. Il y a un principe d'actualisation dans le texte, il faut qu'il augmente, hein, et que ça continue dans le présent des communautés. Moi, que je rapetisse, que je me mette à être rapetissé. Celui qui vient d'en haut, au-dessus de tous, il l'est. Ah oui, mais attention, quel est le problème ici ? De qui s'agit-il ? Ah, on pourrait penser qu'il s'agit exclusivement de Jésus, pas sûr, puisque justement, tout le dialogue avec Nicodème a essayé de faire comprendre qu'il faut être engendré d'en haut. Donc, celui qui vient d'en haut, au-dessus de tous, il l'est. Ça peut s'appliquer aux croyants même, n'est-ce pas ? Celui qui est de la terre il l'est, et de la terre il adresse la parole. Celui qui du ciel vient au-dessus de tous, il l'est. Ce qu'il a vu et avait entendu, de ceci il témoigne, et son témoignage, personne ne le reçoit. Ah, ça c'est quand même impressionnant. Pourquoi est-ce qu'il y a une telle insistance ? Sur le fait que le témoignage de Jean ne soit pas reçu. Parce qu'il est indispensable qu'il soit reçu pour croire à la lumière du prologue hymnique. Et donc, c'est aussi un principe d'explication que le témoignage de Jésus lui-même ne soit pas reçu. Si déjà celui de Jean n'est pas reçu, alors on peut s'attendre à des difficultés au sujet du témoin martyr, Jésus lui-même. Car celui qu'envoya Dieu, les mots de Dieu, il les adresse, car non avec mesure, il donne l'Esprit. Alors là, c'est moins ambigu, n'est-ce pas ? C'est la source de l'Esprit. Le Père aime le Fils et toutes choses, il les a données dans sa main. Celui qui croit dans le Fils a une vie éternelle. Ça, c'est un résumé, en quelque sorte, de tout le dialogue entre Jésus et Nicodème. Celui qui se défie du Christ, hein, c'est pas exactement le ne pas croire, hein, c'est apisteo, hein, alpha privatif. Il ne verra pas une vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ceci étant dit, sans pouvoir se prononcer sur quiconque. C'est de nouveau une sorte de principe kérigmatique d'annonce du salut par la foi, pour reprendre aussi un peu la problématique paulinienne. Alors, comme donc, remarquez comment ce verset est un peu alambiqué, n'est-ce pas, les deux premiers versets. Quand donc ils connurent Jésus, qu'ils avaient entendu les pharisiens, que Jésus, le Seigneur, fait et baptise, troisième fois qu'il est question du baptême de Jésus, de plus nombreux disciples que Jean, alors là, l'évangéliste, le rédacteur, dit, il faut absolument qu'on s'explique, hein. Petite incise, qui fera encore couler beaucoup d'encre, Jésus, lui, ne baptisait pas, mais ses disciples. Oui, mais comment est-ce qu'on peut dire à trois reprises qu'il baptise, s'il ne baptisait pas? Donc, personnellement, je crois qu'il essaye de rattraper un peu la mise, mais le problème n'est pas levé. Je pense vraiment que, dans l'optique de ce prologue narratif, même si ça lui échappe un peu et qu'à un certain moment il essaye de se rattraper, l'auteur atteste que Jésus baptisait. Mais alors, ce qui fait difficulté, évidemment, c'est de savoir comment il baptise. Hein ? Il ne faut pas se représenter le baptême de Jésus comme le baptême chrétien post-pascal. Il y a quelque chose de tout à fait spécifique dans le baptême de Jésus. Ah ben alors, là, on est bien, c'est intéressant de voir que c'est juste le verset qui fait la jointure entre le dialogue avec Nicodème et le dialogue avec la Samaritaine. On a déjà appris comment Jésus baptise dans le dialogue avec Nicodème, par la parole. Il plonge Nicodème, son interlocuteur juif, dans la parole qu'il lui adresse. Il le baptise dans sa parole. Et dans la parole qui est toujours un acte, n'est-ce pas ? Ça c'est, voilà, dabar en hébreu, logos en grec, c'est pas simplement une, comme on l'a dit dès le départ, hein, c'est pas simplement le flatus vocis qui sort de la, c'est pas les mots articulés qui sortent de la bouche. Non, La parole, c'est un événement. Hein. Les linguistes, à l'heure actuelle, diraient c'est une parole performative qui fait ce qu'elle dit. Et donc, il laissa la Judée. Et donc, en laissant la Judée, il s'éloigna de nouveau vers la Galilée. Et alors, maintenant, nous entrons, me semble-t-il, vraiment dans le récit de l'évangile joannique. Or, il fallait qu'il traverse à travers la Samarie. Hein ? Donc, il y a quelque chose de redondant, il y a une certaine nécessité. Déjà, deux fois, il a été utilisé cette expression « il faut », que l'on retrouve chez les synoptiques pour le mystère pascal, « il faut que le Fils de l'homme soit méprisé, qu'il meure, et puis que le troisième jour il ressuscite. » Ici, il fallait qu'il traverse à travers. Hein. Donc, l'expression est redondante. Et d'ailleurs, dier qu'estai dia. Donc, la traversée de la Samarie. Jean est le seul à donner une telle importance aux Samaritains à travers la Samaritaine, à la Samarie. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, il y a des Samaritains. Hein, et chaque année, ils célèbrent leur Pâques sur le mont Garizim. Donc, ce n'est pas une affaire non plus tout à fait folklorique ou archéologique, cette affaire-là, n'est-ce pas ? Donc, la Samarie, donc, c'est ce qui apparaît tellement aussi dans la parabole du bon Samaritain. Pour le dire sur le mode de la parenthèse, notre John Paul Meyer nous a fait une conférence remarquable, là, à Rome, dans ce symposium auquel j'ai assisté, sur le bon Samaritain, dans Luc. pour dire qu'à son avis, c'est vraiment une création de Luc. N'est-ce pas ? Luc est le seul à contenir dans son évangile la parabole du bon samaritain. Mais c'est donc une des rares fois où il soit question des samaritains dans les évangiles synoptiques. Pour Jean, c'est l'entrée dans le quatrième évangile, dans le récit. Alors, c'est quand même fort, ça. Parce que, c'est l'entrée par la grande porte, et en même temps, c'est la toute petite porte. La Samarie, c'est la Samarie hérétique et schismatique, hein. Donc, voilà. Il faut encaisser un peu le choc, là. Il vient donc vers une ville de la Samarie, dite Sicar. Hein, ça, c'est l'araméen, c'est Sichem, en hébreu. Ah, bah, on est en train d'étudier dans un séminaire sur l'Alliance le grand texte de Josué 24. Sichem, c'est la ville la plus proche du Jourdain après l'entrée en terre de Canaan, dans les traditions de l'entrée en terre promise, précisément, dans le livre de Josué. Toute proche de la région que donna Jacob à Joseph, son fils. Ah ben, ça c'est pas mal ça, parce que c'est tout le... Pratiquement, les patriarches, à partir de Jacob, le père des 12 tribus, et Jacob, Joseph, le dernier, qui occupe quand même les derniers chapitres de la Genèse, c'est tout ce cycle patriarcal de Joseph, de Jacob et les frères, jusqu'à Joseph y compris, qui se trouve rappelé à la mémoire. Quelques mots. Et alors, quel est l'enseignement des patriarches, et en particulier du cycle de Joseph ? Parce que, il faut se rafraîchir la mémoire aussi, il faut aller voir, mais je ne peux pas vous demander non plus d'aller relire chaque fois toute la Bible. Hein. Mais quel est l'enseignement, non seulement du cycle des patriarches à travers la fin du cycle de Joseph, mais finalement de toute la Genèse, hein ? Le mal que vous aviez dessein de me faire, dit Joseph à ses frères, au moment où il se retrouve là, hein, et où il tremblait un petit peu, parce qu'enfin, il savait très bien qu'il l'avait jeté dans la citerne. Bon. Alors, le mal que vous aviez dessein de me faire, Dieu l'a transformé en bien afin de sauver un peuple nombreux. Genèse 50, 20. C'est pratiquement un condensé de, d'une part, la sagesse de Dieu, seul capable de transformer le mal en un bien plus grand après qu'avant le mal. C'est la grande idée de Genèse 1 à 3. Hein. Grande idée de l'exultète de Pâques. Hein. Bienheureuse faute qui nous a valu un tel rédempteur. Voilà. Le mal que vous aviez dessein de me faire, Dieu l'a transformé en bien afin de sauver un peuple nombreux. Au fond, c'est déjà aussi tout l'évangile de Jean qui se profile là, parce que c'est exactement ça qui va se passer dans les récits de la passion, de la mort et de la résurrection, à travers notamment la trahison de Judas. La sagesse de Dieu en son fils. Or il y avait là une source, pégée. Pas à Fréard, il va être question du puits un peu plus loin, au verset 11. En général, on ne respecte pas cette différence. La source de Jacob n'est pas le puits de Jacob. Et il n'y a pas, disons, de lieu géographique qui identifie clairement la source de Jacob. Dans la Bible, la source de Jacob veut faire comprendre que, à la lumière des bénédictions de Moïse, à la fin du Deutéronome, Jacob, c'est la source des 12 tribus. Ah oui, de cela il est question. Mais c'est pas un lieu géographique, c'est... On pourrait dire, alors c'est aussi appliqué à un lieu géographique, mais il y a plus. La source de Jacob, finalement, c'est le judaïsme. C'est toute la relation à la Torah. Jésus, donc fatigué de la marche, siégeait ainsi sur la source. Ah, symboliquement, en quelque sorte, il s'approprie cette source. Et en même temps, il s'y réfère. C'est de nouveau toute la question du rapport entre lui et son peuple qui est évoquée là. L'heure était environ la sixième. Il mourra à la neuvième heure, la sixième heure, c'est midi, hein, c'est le moment où en Israël, à la Pâque, on offre l'agneau pascal. Alors, quand vous avez une accumulation, vous avez vu à quel point, dans la rencontre entre Nicodème et Jésus, ce sera le cas pour l'aveugle né aussi au chapitre 9, il y a des rencontres où très très peu de détails sont donnés sur le temps et l'espace. Quand les notations s'accumulent, ça veut dire quelque chose. Donc, on est à un moment, et c'est un peu aussi l'indice de la confirmation, en quelque sorte, du fait que maintenant nous entrons vraiment dans le récit. Hein, vient une femme de la Samarie puiser de l'eau. Seule détermination. Une femme de la Samarie. Voilà, première indication d'une valeur exemplaire, typologique de cette femme qui pourrait être toute femme. Jusqu'à présent, il n'en a pas été question, beaucoup des femmes. Hein. De la mère, ah oui, le fils a dit à la mère « femme ». Mais la première grande rencontre maintenant, en contexte, au fond, de territoire et de population déviante par rapport à l'orthodoxie juive, c'est une femme, l'interlocutrice. Donne-moi à boire. Ses disciples étaient éloignés vers la ville afin qu'ils achètent des aliments. Elle lui dit donc, la femme, la Samaritaine, comment toi, un juif, ça, il n'y a aucun doute, hein, Jésus est vraiment juif pour le coup, hein. Et on ne va pas parler maintenant des autorités juives, etc. Non, voilà. Un juif, de la part de moi, à boire, tu sollicites, étant une femme samaritaine. Ça ne se fait pas. Donc il y a quelque chose qui voilà. Et si on n'avait pas compris, il ne ferait pas des juifs avec des samaritains. Pris l'initiative en parole, hein, donne-moi à boire. Donc, je vous ai dit, hein, on va assister à une catéchèse baptismale. Hein. On va voir comment il baptise. Hein. Il est déjà en train de commencer, là. Si tu savais le don de Dieu, le don de Dieu. Alors là, pour refaire le joint avec la source de Jacob, le don de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est la Torah. Hein. N'oublions ça jamais. C'est la manière dont dans le judaïsme on désigne l'alliance entre le Seigneur et son peuple par la médiation de Moïse au Sinaï, Matan Torah, le don de la Torah. C'est ce qui permet au peuple de vivre ensemble comme peuple de Dieu. Si tu savais le don de Dieu, ah oui, mais c'est maintenant lui qui le dit, hein, donc il, en quelque sorte, il est en acte ce don, hein, c'est ça qu'on veut suggérer. Et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire » ah, les rôles seraient inversés, toi tu l'aurais sollicité. Et il t'aurait donné une eau vivante. Une eau vivante. La vie éternelle, hein, le royaume de Dieu comme vie éternelle. Une eau vivante, une eau qui donne la vie. Hein. Retrouve l'eau l'eau des jarres de purification des Juifs. Là, hein. Donc, il t'aurait donné une eau vivante. Elle lui dit, la femme, Seigneur, tu n'as pas de puisette et le puits est profond. Ah, voilà. Alors là, c'est le puits. Là, oui. Ce n'est plus la source, c'est le puits. C'est vraiment le lieu géographique, hein, mais qui déborde symboliquement ce qu'il représente. D'où l'as-tu donc, l'eau, la vivante? L'eau, c'est souvent, dans l'Ancien Testament, chez les prophètes, dans les psaumes, c'est la Torah, mais c'est souvent aussi la sagesse. Hein, c'est un symbole de la loi et de la sagesse. Tu n'es tout de même pas toi plus grand que notre père Jacob, qui nous donna le puits, et lui, il en but, et ses fils, et ses bestiaux. Donc on se retrouve là, n'est-ce pas, un topos de la littérature universelle, c'est que on noue alliance de fiançailles et alliance nuptiale au puits, à la source. La source est un symbole aussi féminin, n'est-ce pas? Notre père Jacob, qui nous donna le puits, lui, il en but, et ses fils et ses bestiaux. Donc voilà, ça c'est aussi la technique du dialogue. Hein. Progressivement, elle s'ouvre à ce qui se passe et à celui qui lui parle. Tout qui boit de cette eau aura soif de nouveau. Il boira, qui boira de l'eau dont moi je lui donnerai. Donc le vocabulaire du don là est insistant, hein, ça. C'est un des verbes les plus fréquents dans certains grands passages de Jean, comme aussi dans la prière de Jean 17, n'aura sûrement pas soif à jamais, mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui source d'eau jaillissant en vie éternelle. Ah, attention, hein, il ne s'agit pas simplement de donner de l'eau et d'en recevoir. Mais en recevant l'eau que donne Jésus, il s'agit de devenir à son tour source d'eau jaillissant en vie éternelle. je ne sais toujours pas, il y a des amis qui me disent oui, elle lui a donné à boire et il a bu. Moi je suis toujours très sceptique, n'est-ce pas, finalement, elle ne lui a pas donné à boire. Donc, il est resté sur sa soif, le pauvre, n'est-ce pas? Et donc, en même temps, bon, c'est pas ça qui importe. L'important, c'est de devenir source. Pas de boire ou pas boire, c'est voilà. Être, voilà, c'est toujours le même enseignement, n'est-ce pas? Être lieu du Fils lui-même. C'est ça le baptême. C'est ça la pédagogie du croire. C'est être identifié au mystère du Christ, du Fils. Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie pas soif ni ne traverse pas jusqu'ici pour puiser. Et alors, je comprends mieux maintenant pourquoi. C'est un fait pratiquement unique dans tout le Nouveau Testament et dans toute la Bible. Ce qui suit au centre du discours de la relation entre Jésus et la Samaritaine, c'est... Si vous suivez la structuration que je propose après le prologue narratif, n'est-ce pas, c'est vraiment en 4:3-45, et avec les versets maintenant 16-26, c'est le centre de la toute première section de l'Évangile, si on la poursuit jusqu'à la fin du chapitre 6. Hein, et personnellement, c'est le découpage que je fais. Et donc, maintenant, nous arrivons au cœur, et je voulais y arriver le plus rapidement possible, n'est-ce pas, il y aurait encore moyen de dire beaucoup de choses sur ce qui vient d'être dit de la rencontre entre la Samaritaine et Jésus, mais de nouveau, un peu comme dans les versets qui suivent immédiatement la première rencontre entre Jésus et Nicodème, il y a un développement qui attire l'attention sur ce qui est l'essentiel du message. Quel est l'essentiel du message? C'est une question d'adoration. Il lui dit... Pars, appelle de la voix ton homme, viens jusqu'ici. Elle lui répondit, la femme, et elle dit, je n'ai pas d'homme. Alors, c'est un bon exemple du terme amer. Hein? aner, qui n'est pas anthropos. Aner, c'est vir en latin. C'est le masculin. Et en général, ce terme, je ne l'ai pas assez dit jusqu'à présent, parce que c'est quand même un terme qui est arrivé déjà avec le premier témoignage de Jean. Aner, c'est souvent l'homme au sens d'époux dans la relation époux-épouse, masculin-féminin. Je n'ai pas d'homme. Tu dis bien que tu n'en as pas, 5 hommes, tu en as eu, et maintenant celui que tu as n'est pas ton homme. Donc, c'est l'un d'être au 6e, et Jésus le 7e, hein, c'est clair. c'est le chiffre parfait, hein, c'est le bouquet, c'est l'accomplissement. Donc, voilà. Époux de cette femme-là. Donc, tu es un prophète. Ah, c'est pas mal ça. Oui, ça c'est prophète. Parle au nom de Dieu. Hein, donc, elle lui dit, la femme, je contemple que tu es un prophète. Nos pères, dans cette montagne, adorèrent. Donc, on est au Garizim. Hein. Sichem est dans la vallée entre le Garizim et les Baals. Ils sont fameux dans le Deutéronome parce que c'est de là que le peuple se renvoie les bénédictions et les malédictions. Bon, c'est Deutéronome 27-28. Bon. Mais vous dites, alors, vous les Juifs, puisque hein, elle a identifié son partenaire comme Juif, vous dites que dans Jérusalem, ah oui, on en vient de Jérusalem, du temple, sur le mont Sion, la montagne, dans Jérusalem est le lieu où il faut adorer. Alors, on va vite faire le compte. Première mention de adorer au verset 20. Deuxième, dans le même verset 20. Il lui dit, Jésus, crois-moi, femme, que vient une heure où, quand ni dans cette montagne-ci, ni dans Jérusalem, vous adorerez. Le Père, 4. Vous adorez, 5. Ce que vous ne savez pas, nous adorons, 6. Ce que nous savons, parce que le salut des Juifs, il est, paf, à retenir. Ça, c'est la position johannique par rapport aux Juifs. Alors qu'on n'allait pas dire que le quatrième évangile est antisémite. Hein, c'est aberrant. Bon. Le salut est des Juifs. Il ne vient pas des Juifs. Il est, au présent, des Juifs. Être de, c'est appartenir. Donc on ne peut pas en faire une économie. Mais vient une heure, et maintenant elle est, quand les véritables adorateurs adoreront. 7, 8, aussi en esprit et vérité. Car aussi le Père, de tels adorateurs, c'est implicite, il cherche qu'il adore. 9. Esprit, il est Dieu, et ceux qu'il adore en esprit et vérité, il leur faut adorer. J'ai pas très bien fait mon compte, mais il y en a 10. Donc, ça c'est un signal lumineux extraordinaire. Hein? 10 fois que le verbe adorer arrive à travers, disons, des variations de ce champ sémantique. Elle lui dit, la femme, je sais qu'un Messie vient, celui qui est dit Christ, quand il vient éventuellement, celui-là nous communiquera toute chose. Il lui dit, Jésus, ego eimi, première fois qu'arrive la fameuse expression, ego eimi, moi je suis, oh la lone soy qui t'adresse la parole à toi. Voilà, c'est aussi pour ça qu'il y a une catéchèse baptismale. Là. C'est la parole d'origine qui est à l'œuvre et qui crée. Hein. Alors, comme j'ai insisté là-dessus, évidemment, je dois m'en expliquer. Pourquoi cette adoration, cette insistance sur l'adoration qui va culminer dans les versets 22 et 23. Vous adorez ce que vous ne savez pas. Nous adorons ce que nous savons. Alors, il y a vous, il n'y a aucune ambiguïté. Vous, c'est les Samaritains. Hein. Maintenant, qui est le « nous » Ça, c'est un petit peu plus compliqué. C'est vraisemblablement, pas simplement, le « nous » juif. C'est de nouveau le « nous » qu'on avait vu dans le dialogue avec Nicodème et qui est à la fois Jésus et le « nous » des croyants, le « nous » ecclésial. Il y a toute une discussion là-dessus. Non, il a dit « nous », mais il aurait dû dire « je ». Ben, bon, s'il n'a pas dit « je », il a dit « nous ». Donc, faut De nouveau, donc, l'insistance, ce n'est pas sur Jésus lui-même, c'est sur l'effet, le fruit de Jésus sur les autres. C'est ça qui importe. Hein. Nous, nous adorons ce que nous savons. Parce que, et le salut est des Juifs, c'est en pleine solidarité avec les Juifs. Hein. Le croyant chrétien ne peut absolument pas douter de ce qu'il vit, de l'accomplissement des Écritures et du dessein créateur de Dieu en Israël, en sa faveur et en faveur de tous, hein, à partir des Juifs. Le salut des Juifs est, hein, c'était le moteur du dialogue juif-chrétien à partir de l'évangile de Jean, ce verset-là, n'est-ce pas ? Mais comment ce salut des Juifs est-il ? Parce qu'il débouche sur la confession de foi trinitaire. Vient une heure maintenant, elle est, quand les véritables adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Et on se retrouve dans la conciliation entre la confession de foi monothéiste juif et la confession de foi trinitaire chrétienne. C'est continuel, ça. C'est présent dans tout l'évangile, mais au cœur de la rencontre entre Jésus et la Samaritaine. Et alors le verbe adorer. Pourquoi le verbe adorer ? Pourquoi ce champ sémantique privilégié ? Parce que c'est le verbe du grand commandement dans l'Alliance, exprimé de façon négative dans le Décalogue. Tu n'adoreras pas d'autres dieux que moi. Donc, adorer, c'est adorer le Père, mais le Père, c'est le Dieu d'Israël, en esprit et vérité, c'est-à-dire dans la parole que Jésus est et qu'il est en train de transmettre et d'exprimer. Alors, en effet, lui pour faire le joint avec le baptême, lui seul peut baptiser de cette manière parce qu'il est la parole. Hein? Si on est fidèle aux premières données du prologue hymnique, il ne peut baptiser que comme cela, en étant parfaitement lui-même dans sa et ses paroles. Il baptise dans la parole qu'il est. Le Père, de tels adorateurs, il cherche qui l'adore. C'est dit à la Samaritaine pour les Samaritains, mais c'est dit aussi aux Juifs pour eux. Hein? Ah oui. Avec cette conviction qu'on doit pouvoir y arriver. On n'y est pas encore, mais voilà, l'évangile nous est conté pour ça, c'est-à-dire c'est quand même tout à fait révélateur que le centre de ce dialogue magistral, n'est-ce pas, entre de nouveau Jésus, la parole faite chair, et cette femme à qui il dit « femme », n'est-ce pas, comme il l'avait dit à sa mère, ben, il la prend pour épouse. Donc, c'est l'alliance nuptiale qui se conclut de nouveau, n'est-ce pas ? Et avec... Bon, alors, on a beaucoup discuté, hein, les cinq maris, là, qui sont-ils ? Alors, on a dit, c'est les idoles de la Samarie, etc. Bon, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est une femme qui a vraiment une vie conjugale mouvementée, hein, tourmentée, torturée. Donc, oui, ben, voilà, c'est toi que je choisis. Ça se retrouve chez les synoptiques. Hein. Prostituées vous précéderont dans le royaume. Hein. Donc, Donne alors. Je sais qu'un Messie vient. Donc c'est quand même intéressant. L'ouverture de la foi samaritaine aussi au messianisme juif. Quand il viendra, celui-là nous communiquera toute chose. Ego emi ho lalon soi. Et alors, vous avez évidemment, je vous ai donné aussi hein, dans les feuilles de traduction un étalement de ces versets 20 à 24, de telle sorte aussi que la dimension du Père ressorte. Je l'ai exprimé en majuscule, en gras, n'est-ce pas ? Nos pères, dans cette montagne à l'horaire, il lui dit, crois-moi, femme, crois-moi, femme, ça va très loin, hein. Crois-moi. Elle est invitée à entrer dans le croire en étant appelée femme, hein, épouse. Vient une heure et on retrouve l'heure de Cana, bien sûr. Quand ni dans cette montagne-ci, ni dans le Jérusalem, vous adorerez le Père. Et ainsi de suite, les véritables adorateurs adoreront le Père dans l'esprit et vérité. Car aussi le Père de tels adorateurs, il cherche qui l'adore. Et ensuite, eh bien, je n'y reviendrai pas, nous passerons aussitôt à des textes suivants la prochaine fois, n'est-ce pas ? Mais la conclusion des versets 4, 27 à 45 reviennent alors du côté des disciples sur la nourriture. Après que la première grande partie du texte ait parlé de l'eau, qui fait le joint avec Cana, l'aliment, la nourriture anticipe déjà ce qui arrivera avec les pains au chapitre 6. Donc c'est vraiment un texte charnière, à la fois inaugural pour le récit et charnière dans les versets 1, 19 à 6, 71. Et donc c'est aussi là qu'on voit à quel point le croire est contagieux. Hein? On ne peut pas croire tout seul. Elle va aussitôt dire aux Samaritains, « Voyez un homme qui m'a dit toute chose au temps que j'en avais fait. Est-ce que celui-ci n'est pas le Christ ?» Et tout se conclut alors au terme de cette dernière séquence. « Non plus à cause de ta parole, nous croyons, car nous-mêmes nous avons entendu et nous savons que celui-ci est vraiment le sauveur du monde. » C'est la seule occurrence. Après, le salut vient des Juifs, le salut dont il est question dans le texte kérigmatique à la fin du chapitre, enfin de la rencontre avec Nicodème, qui parle du salut. Hein. Vraiment le sauveur du monde. Merci de votre attention, merci de votre patience et à la prochaine fois. Merci.